Chapitre 6 Bouche close. Charlotte avait couru toute la soirée au hasard, sans savoir où, criant « Mes enfants, on m'a volé mes enfants !» Elle avait parcouru la campagne, traversé les champs où elle enfonçait jusqu'au-dessus de la cheville, dans la terre meuble récemment labourée. Elle s'était jetée dans les taillis toutes les fois qu'un sentier l'y conduisait. Elle s'était perdue dans le bois de Villandry, puis, sans même y prendre garde, elle avait retrouvé son chemin et avait passé dans les ruines de Relais. Mais cette course insensée, furieuse, avait eu raison de ses dernières forces. « Il est parti, il les a emmenés et je ne les reverrai plus, ni lui ni elle. » Alors elle s'était couchée le long d'un arbre, tout près de la route royale. Peu à peu, elle avait perdu le sentiment de la vie. Son exaltation avait fait place à une torpeur étrange. Elle ferma les yeux, elle s'étendit. « Je vais mourir, » pensa-t-elle, « je suis heureuse. » Et rien n'exista plus. Elle était plongée dans une de ces syncopes fréquentes pendant lesquelles la vie pour elle était véritablement suspendue. Le drame qui se passa tout près dans le ravin de la route, elle ne le vit pas. Les cris de Renneville à l'agonie ne troublèrent point son sommeil de mort. Les heures s'écoulèrent, lentement sonnées au loin à la vieille église. Elle n'a pas été vue non plus par le meurtrier et par sa victime. Elle n'a pas été vue par Matisse et par Clotilde, témoins de l'autre drame. L'arbre au pied duquel elle vient de s'étendre fait de l'ombre au-dessus de son corps et la protège ainsi, et la protégera jusqu'à l'aube. À l'aube grise, à l'heure où la comtesse, dans sa chambre, se débat contre l'amour de son mari, des pas font rouler des pierres dans le ravin. Un homme d'un pas agile escalade la berge et en haut s'arrête un moment comme pour réfléchir. Au bout d'un instant, il continue sa marche à travers la campagne. Sa marche le conduit droit à l'arbre sous lequel repose Charlotte. Il voit un corps de femme étendu, vivement se baisse, et un cri lui échappe, cri de douleur, de désespoir et aussi de colère. « Charlotte, elle, oh mon Dieu, est-ce qu'elle serait morte ?» Il se penche, s'agenouille, met la main sur le cœur dont il perçoit les pulsations et se relève. « Oh non, une syncope, oh, oh, ivre comme toujours, la malheureuse !» Et il la contemple longuement dans une attitude de douleur immense, car cette femme, il l'a aimée de toutes ses forces depuis son enfance. Elle a parcouru tous ses rêves, elle a été l'objet de toutes ses ambitions. Il aurait voulu, pour elle, travailler, devenir riche et célèbre, la mériter par des prodiges, lui, Jean Berthelin. Et voilà ce qu'elle était devenue. Voilà comment il la revoyait. Mais comment se trouvait-il là? Quel hasard l'y conduisait? Non point le hasard, mais l'habitude, passée dans sa vie comme un besoin impérieux de vagabondage nocturne. Presque toutes les nuits, c'est ainsi. Il adore la nuit. Jadis, il braconnait par amour de ce vagabondage. Maintenant qu'il est riche ou il n'a pas perdu ce goût d'aventure, il ne braconne plus chez les autres, mais chez lui. Sa vie se décompose ainsi. Le jour, il travaille, fait les courses indispensables à l'exploitation de sa propriété, de ses bois, car pour ce soin, il ne se repose sur personne. Le soir, de bonne heure, il est au lit. La nuit, il se réveille et le voilà parti dans ses propres bois, son fusil démonté, portant autour de la ceinture des fils de fer qui vont lui servir de collets à lièvre ou à lapin. Et il s'y donne avec passion. Entre lui et ses deux gardes, Paternel et Musard, c'est une guerre de ruses, de pièges tendus et évités, d'embûches de toutes sortes, une guerre sans merci qui menace de rendre fous les deux forestiers. Car Musard et Paternel ne se doutent pas de cette fantaisie étrange de leur jeune maître. L'insaisissable braconnier, qui toutes les nuits pose ou relève ses collets dans les bois dont ils ont la garde, prend un chevreuil ou le tue à l'affût, descend du brancher quelque faisant, où le matin à l'aube appelle les mâles de Perdrix Rouge au coin d'une taille pour les accueillir d'un coup de fusil. Cet audacieux vagabond qui les met sur les dents, les défie, se moque d'eux, toujours invisible, et qui a l'air d'un fantôme qui se promènerait toutes les nuits à leur barbe, ils ne le connaissent pas. Jadis, ils ont eu avec Jean Berthelin maille à partir avant l'héritage. Berthelin s'était laissé prendre. C'était le seul qui fut capable de leur tailler tant et deux sirus de besogne. Mais à présent que Jean était riche, à présent qu'il avait hérité d'une forêt giboyeuse, et que même, sans que Berthelin le regardât rancune, d'autrefois était devenu ses gardiens, il s'était dit « Bon, nous serons tranquilles, Monsieur Berthelin est le plus fin braconnier du pays. Le voilà propriétaire, mais nous allons avoir des loisirs. » Et à peine installé, ça avait été sur la propriété, un bordure de la forêt de Chinon, un déluge de déprédation, une destruction de tout le gibier. Parfois, les deux vieux se regardaient, les yeux fous de colère impuissante. Il leur arriva de se concerter. « Enfin, Musard, tu te doutes de rien ?»« Non, Paternel, si tu savais comme j'ai une démangeaison de lui envoyer un coup de fusil à ce brigand, le jour où je le pincerai, nous ne le pincerons jamais. Mais ils ne sont pas du ciel, pourtant, ce sacripant-là. » Peut-être, peut-être, oh, moi je commence à le croire, ça peut être un revenant. Je ne te le disais pas, vieux filot de tout bas, mais je le pensais aussi. Et tous deux, de leurs dures mains calleuses aux veines saillantes, firent le signe de la croix pour se préserver contre les maléfices de l'ennemi surnaturel. Et dire que nous avons passé des jours et des nuits en nous relayant à surveiller une tente de collet sans rien voir, et que aussitôt que nous avions les talons tournés pendant une heure, il arrivait, lui, derrière nous. Oui, dit Paternel, dont la voix tremblait à force de colère, te souviens-tu, il y a 3 semaines, au nœud d'un collet à chevreuil, il avait mis un morceau d'étoffe, et dans ce morceau d'étoffe, il y avait un papier. Et c'est moi qui ai lu le papier. Dessus, on avait écrit « Bonsoir à mon vieux Paternel » et « Bonsoir à mon vieux Musard ». Mais c'est pas tout, la deuxième fois, il y a quelques jours, à un collet de lapin, nous avons trouvé un autre papier, avec une phrase en vers. Tout de même, ils sont pas malins, les gardes à Jean Berthelin. Mais il faut croire que nous avons laissé tomber le papier hors de notre cardier, qu'on l'aura ramassé, puis ça se connaît partout à présent dans le pays, qu'on y a mis de la musique et que partout à Sachet, à Azay, à Druy, il n'y a pas un gardement qui ne nous conte ça aux oreilles. Blême, les deux vieux serrèrent les poings et jetant leur fusil sur l'épaule, ils s'éloignèrent sans mot dire, ruminant des pensées de vengeance. C'était de cette façon singulière que Berthelin occupait sa vie. Cependant, une année environ auparavant, les gardes avaient eu quelques mois de répit. Tout à coup, et même sans qu'il leur fût possible d'expliquer cette disparition, le mystérieux braconnier parut avoir quitté le pays. Plus de collets, plus de coups de fusil, la nuit contre les lièvres et les chevreuils qui revenaient du gagnage, le calme absolu. Musard et Paternel se dirent avec orgueil « Oh, il a eu peur de nous !» Cette satisfaction d'amour-propre ne dura pas longtemps. La tranquillité de leur bois coïncidait avec l'époque où chez Charlotte à Maisonbruyère, fut remarqué les premiers symptômes d'ivresse qui attirèrent l'attention sur la malheureuse femme. Lorsque Jean Berthelin connut les bruits qui couraient, il se révolta. Est-ce que pareille chose était possible? Est-ce que ce n'était pas une infamie? Et si atroce, si gratuitement furieuse et grossière, qu'il en haussait les épaules. Mais la calomnie de timide qu'elle était s'éleva bientôt en une clameur formidable. Jean Berthelin lui-même rencontra plusieurs fois Charlotte courant la campagne en état d'ivresse. Parfois, dans les syncopes, nous l'avons dit, il la protégea. Alors pouvait-il en douter? Et oui, il doutait toujours, en dépit de l'évidence, car son amour parlait en lui plus fort que ses clameurs publiques et les étouffait. Ce fut pour Paternel et Musard l'époque de leur calme. Puis, quand malgré lui, Jean Berthelin fut obligé de croire, lorsqu'arriva la grossesse de Charlotte, il eut un accès de désespoir. Et parce qu'il avait besoin de s'étourdir, parce qu'il avait besoin de fatigues énormes qui, en abrutissant son corps, domptaient un moment sa tristesse et ouataient ses souvenirs, il reprit de plus belle ses courses nocturnes. Et Paternel et Musard achevaient de devenir fous. C'est dans une de ces courses que Jean Berthelin venait de rencontrer Charlotte, étendue sans vie sous l'aube grise au pied d'un arbre dans la campagne. Il s'est agenouillé auprès de la jeune femme et lui a pris les mains. Il fait tout son possible pour la rappeler à la connaissance, et bientôt il a la joie de la voir revenir à la vie, se soulever, se mettre debout, le dos contre l'arbre. Mais elle a, comme toujours hélas, les yeux troubles de l'ivresse. Elle voit Jean Berthelin, mais elle semble le considérer comme un étranger. Elle le regarde curieusement, et les premiers mots qui sortent de ses lèvres sont les derniers qui en étaient sortis au moment de sa syncope. « Je vais mourir, je suis heureuse. » « Non, ma pauvre Charlotte, dit Berthelin, vous ne mourrez pas. » Le son de cette voix alors la fit tressaillir. Elle le reconnaît enfin. « Jean, c'est toi !»« Mais que faites-vous donc là, Charlotte, à cette heure ?»« Mon mari est revenu. »« Oh, je le sais, je l'ai rencontré. »« Il n'a pas voulu croire que je suis innocente de tout, et il m'a volé mes enfants. » Il s'est enfui avec elle, et je me suis mis à courir après lui, et puis je suis tombé là, à bout de force, et j'ai cru que c'était fini. Venez, appuyez-vous sur mon bras, je vais vous conduire à Maisonbruyère. Elle frissonne. Là-bas, elle va retrouver son enfant mort. Elle lui saisit le bras, nerveusement, et d'une voix sourde. Et savez-vous ce qu'ils disent? Savez-vous, les infâmes, ce qu'ils viennent crier jusque sous mes fenêtres? Ils osent dire, oh, et le docteur aussi l'affirme, que mon enfant est mort empoisonné, et que, oh Dieu, est-il possible que j'ai entendu cela et que je sois encore vivante, et que c'est moi, tu comprends bien, Jean, que c'est moi qui l'ai empoisonné? Oui, l'accusation, il la connaît, lui aussi. Il voudrait l'en défendre, il ne le peut. Il l'entraîne lentement vers Maisonbruyère. Quand ils arrivèrent, le jour était venu. Dans la chambre de Charlotte, dont la porte et les fenêtres sont restées ouvertes, les deux cierges bénis ont fini de brûler sur le guéridon, près du berceau. Berthelin s'incline devant ce mort, jette quelques gouttes d'eau bénite et s'en va. Il a le cœur gros. Des larmes sont près de jaillir de ses yeux. Et ce matin-là, il ne se sent plus le courage de poursuivre son vagabondage. À peine a-t-il quitté Charlotte qu'il rencontre le chaufournier et l'enjôme. Celui-ci l'appelle sur le dos, montait le chemin creux de la plâtrière. « Bonjour, monsieur Vertelin. Oh, oh, on est matinal aujourd'hui. » Vertelin est si absorbé qu'il ne répond pas. Et les deux hommes font route côte à côte, pendant quelques minutes, silencieusement. Devant la plâtrière, au moment où l'enjôme dégringole dans l'excavation, il dit en souriant à Bertelin, « On n'est pas en guet ce matin, monsieur Jean. »« Oh non, l'enjôme, non, non, je ne suis pas guet. » Ils se séparent. Bertelin continue sa route et fait une dizaine de pas. Soudain, il s'arrêta. Un grand cri, derrière lui, étouffé, venant du fond de la plâtrière. Il accourt, car c'est l'enjôme qui l'appelle. « À moi, monsieur Bertelin, à moi, à l'aide !» Presque aussitôt, il a rejoint le chauffournier, qu'il trouve tremblant. Mais il ne lui demande même point la cause de cette émotion. Lui-même recule tout pâle, avec un cri d'horreur. Il y a là un cadavre au fond du trou. Et ils le reconnaissent tous les deux, le docteur Renneville. Mais comment était-il tombé là? La plâtrière descendait en pente douce jusqu'aux deux fours allumés. Un accident était donc impossible, même la nuit. Une chute ne pouvait être mortelle. Quant aux deux fours, les exhalaisons de leur oxyde de carbone se dégageaient par leur cheminée carrée, collée contre la roche de l'autre côté de laquelle était bâtie Maison Bruyère. Blanchereau et son ouvrier y avaient toujours travaillé, sans être incommodés, sans ressentir aucun symptôme d'asphyxie. Parfois, des vagabonds, des cheminots sans gîte, venaient coucher dans la plâtrière à l'abri du vent et des intempéries. Le matin, ils n'éprouvaient aucun malaise, et ils prenaient congé de Langerôme en disant « Bah, tout de même, nous avons passé une bonne nuit !» Donc, dans cette mort accidentelle, les fours ne pouvaient être incriminés. Ils n'avaient pas mauvaise réputation dans le pays et personne ne parlait d'eux. Cependant, c'était à un accident que Langerôme et Bertelin pensaient. Ils ne revenaient pas à l'idée qu'un crime avait peut-être été commis. Bertelin, après la première émotion, se pencha sur le corps et essaya de le relever. Le cadavre était déjà raidi. Point de traces apparentes de blessure. Ils cherchèrent en vain. Seulement Langerôme, tout à coup, remarqua des éraflures d'ongles autour de la gorge. « Ah, dit-il, tenez, tenez, mais c'est là !»« Oui, étranglé, oui. Oh, on dirait qu'on l'a étranglé. Oh, il faut aller prévenir le maire et les gendarmes. J'y vais, vous, Langerôme, restez ici. Empêchez qu'on change rien à tout ce qui est autour de vous. Éloignez les curieux autant que possible. » Jean Bertelin partit. Le soleil se levait, la vallée fut inondée de lumière. Devant la jolie maison aux glycines et aux clématites, adossée contre la roche de la plâtrière, il entendit une prière. C'était Charlotte, au chevet du berceau, qui oubliait sa propre peine pour ne songer qu'à l'âme du petit disparu. Il vint jusqu'au seuil et dit « Charlotte !» Elle souleva la tête, le visage meurtri par tant de tortures. « Langerôme vient de trouver le docteur Renneville assassiné dans la plâtrière !» Il ne dit rien de plus et prend sa course vers Artane. Elle reste un moment sans comprendre ce qu'il a dit, puis au souvenir de l'accusation que le médecin avait portée contre elle, dans l'accablement immense qui pèse sur sa vie, un mot de haine lui échappe. Ah, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Est-ce que l'heure de la justice, L'heure de la réhabilitation, enfin, va sonner pour moi. Le long de sa route, Berthelin annonce partout la fatale nouvelle. En une heure, celle-ci fait le tour du pays, colportée de ferme en ferme, de château en château, de village en village. Le docteur Renneville a été assassiné. Le vieillard, depuis ses études au Quartier Latin, n'avait plus jamais quitté le pays. Tout le monde le connaissait, il était populaire. À Fenestrel, Clotilde rêve dans son lit. Elle repasse le cauchemar de cette nuit lugubre. Elle se dit, maintenant il fait grand jour, les ouvriers des fermes sont à leur travail, on va découvrir le cadavre du malheureux. Que va-t-il se passer? Elle prête l'oreille à tous les bruits qui d'en bas montent affaiblis jusqu'à elle. Le château du sommeil a été long à s'éveiller ce matin-là. Les fatigues de la fête nocturne pesaient sur lui et semblaient l'accabler encore. Peu à peu, cependant, la vie lui revint. On entendit les pas légers et prudents des gens attentifs à ne pas troubler le repos de leur maître. Le sable de la cour cria. Rien d'anormal ne se passait. On n'avait pas encore découvert le cadavre, sans doute. Ou bien n'avait-elle pas rêvé tout cela? Et qui sait si tout à l'heure, dans une de ses visites à des malades aux environs, on n'allait pas apercevoir tout à coup la joviale figure bourrue du vieux médecin dissipant ce cauchemar. À l'église de Pont-de-Ruan, les heures sonnent. Vers 10 heures, elle penche hors de son lit sa jolie tête pâlie de terreur et de la fatigue de cette nuit. C'est qu'elle croit avoir entendu en bas, dans les jardins, des exclamations. Puis une course des pas précipités vers le château, sur le gravier. Les pas entrent dans le vestibule, traversent le hall, montent au premier étage. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'on l'a découvert enfin? Au premier étage, un bruit de portes ouvertes et fermées. Puis, le silence, un silence lourd, partout. Elle a compris que la nouvelle venait d'être apportée au château, et qu'en ce moment même, on l'apprenait à son mari. À son mari, dont la nuit aussi avait dû être peuplée de fantômes. À son mari, dont la main tremblait encore, sans doute de l'effort qu'il avait fallu pour achever le vieillard agonisant. Alors elle n'eut plus le courage de rester au lit. Est-ce que ce ne sont pas les gens de la justice, peut-être, qui sont là et qui viennent arrêter le comte? Elle se lève, ses admirables cheveux flottant sur ses épaules nues. Elle passe en frissonnant une robe du matin. Elle se dirige vers une fenêtre et soulève un coin des rideaux. Dans la cour, des gens causent, consternés, avec animation. Ils font de grands gestes. Des paysans sont là avec des domestiques. Ils regardent les fenêtres du château, voulant juger sans doute à l'apparition du comte Hubert de l'émotion que la nouvelle avait dû produire sur lui. Tous ces visages sont ceux de gens qu'elle connaît. Non, la police n'a pas été prévenue encore. On n'a pas eu le temps. De nouveau, un bruit de pas dans le couloir qui partage en deux les appartements de Fenestrel au premier étage. Il lui semble qu'on s'arrête devant sa porte. Oui, on écoute. Oh, le comte peut-être veut savoir si elle est réveillée. Il frappe, mais doucement, avec précaution, pour attirer son attention, si elle ne dort plus, sans vouloir la tirer de son sommeil si elle dort. Elle se garde bien de répondre, elle retient sa respiration. Les pas s'éloignent, descendent. De son rideau soulevé, elle voit le comte qui rejoint les groupes de paysans dans le fond de la cour et qui s'entretient avec eux, les interroge, cherche déjà sûrement à se préparer un alibi pour le cas où les soupçons se dirigeraient sur lui. À deux reprises, il regarde vers les fenêtres de l'appartement de Clotilde. Elle peut apercevoir ainsi son visage. Le comte est extrêmement pâle. Cette nouvelle l'a terrifié, cela se voit. Est-ce qu'il s'imaginait qu'on découvrirait jamais ce cadavre? Puis il s'éloigne avec ceux qui sont là. Où va-t-il? Elle voit qu'il descend vers l'Indre. Est-ce qu'il aurait le courage, l'atroce énergie de se rapprocher du cadavre et de le regarder en face? Bientôt il disparaît. Et Clotilde respire. La présence de son mari pesait lourdement sur elle. Elle est soulagée d'en être un moment débarrassée. Elle sonne sa femme de chambre pour sa toilette. Celle-ci s'empresse d'accourir. C'est à peine si elle est entrée que la nouvelle éclate. « Oh, madame! Oh, madame! Oh, si madame la comtesse savait !» Clotilde fait l'indifférence, l'étonnement. « Quoi donc, Sylvie? Et pourquoi vous êtes si troublée, ma fille? Oh, madame, mais c'est horrible, c'est épouvantable! Dire qu'hier soir encore il m'a parlé, dire qu'il me faisait des compliments sur ce qu'il appelait ma santé décourageante, et qu'aujourd'hui... Non, vous savez, Sylvie, que je ne comprends rien à ce que vous me dites. Ah, madame, le docteur, le docteur Renneville. Eh bien, qu'a-t-il fait de si singulier, le docteur Renneville? Assassiné, madame, assassiné. Et dans un flot de paroles, sans se préoccuper, heureusement pour Clotilde, de l'émotion de sa maîtresse, elle expliqua comment on avait retrouvé le cadavre au fond de la plâtrière, où l'on prétendait que les assassins l'avaient fait rouler après avoir étranglé le docteur. Elle parla longtemps tout en coiffant Clotilde, et la comtesse ne songea guère à l'interrompre. Elle était absorbée profondément. À quoi pensait-elle? Elle pensait que Renneville avait été étranglé devant elle aux ruines de Relais et que l'assassin, son crime commis, n'avait pas voulu abandonner sa victime. Dans le chemin raviné de l'ancienne route royale, il l'avait traînée jusqu'à 200 pas de là et l'avait jetée dans la plâtrière. Sans doute qu'il avait voulu tout d'abord la faire disparaître à jamais en la brûlant dans l'un des fours de Langerôme. Puis le courage lui avait manqué, ou la force, pour accomplir jusqu'au bout cette horrible besogne. Voilà pourquoi, lorsque Clotilde et son amant avaient quitté la chapelle pour s'enfuir, pour échapper à la vision sanglante, voilà pourquoi Mathis, dans le ravin, n'avait plus retrouvé le cadavre. La femme de chambre a achevé de la coiffer. Clotilde se lève, jette un coup d'œil dans une psyché. Son fin visage est d'une pâleur jaunâtre et ses yeux sont cernés d'un large cercle bleu. Le rouge des lèvres a pâli, léger également. La femme de chambre l'observe. « Madame la comtesse est un peu souffrante. Oui, cette nouvelle m'a toute bouleversée. Oh, madame, espérons que l'on connaîtra vite le meurtrier. » Clotilde est secouée d'un long tremblement. Elle s'assied, les mains sur les yeux. Cependant, elle demande « Est-ce que l'on soupçonne quelqu'un déjà ?»« Oh oui, madame, oh, depuis ce matin, on parle, on jase, on raconte des choses dans le pays. » « Et que dit-on ? Cela a-t-il au moins le sens commun, ce que l'on raconte ?» « Madame jugea, on dit. » Et la femme de chambre baissa la voix comme si elle redoutait qu'on l'entendît. « On dit que ce serait la pocharde qui aurait fait le coup hier soir. » Clotilde poussa un long soupir. Un peu de sang remonte à son visage. Elle ne réfléchit pas que cette accusation, qu'elle sait fausse, si elle se précisait, deviendrait une monstruosité puisqu'elle frapperait une femme innocente. Elle pense seulement que, du moins, elle a quelques heures de répit, puisque l'opinion publique s'écarte du comte du Tielley et semble vouloir le laisser en dehors de cette accusation. Mais elle interroge anxieusement. Et qui désigne comme l'assassin cette malheureuse femme? Mais tout le monde, madame. On l'a vu, il y a donc des preuves. Oh, j'en sais rien encore. Nous étions en train d'en causer à l'office quand madame la comtesse m'a sonné. Mais monsieur le comte vient de partir pour Maisonbrière. Monsieur le comte rapportera certainement des renseignements à madame la comtesse. La toilette de Clotilde était terminée. La comtesse renvoya Sylvie. Elle fut heureuse de se retrouver seule. Mais pourquoi accuse-t-on cette femme? Et après le premier soulagement de tout à l'heure, qui venait surtout de ce qu'elle voyait le danger immédiat s'écarter de Fenestrel, une autre terreur entrait dans son âme, vague, pas encore bien définie, mais réelle. Mais est-ce que l'on accusera vraiment cette pauvre déséquilibrée? Et que fera-t-elle si on l'accuse? Si l'accusation se précise? Bientôt l'envie lui vient de savoir, d'apprendre. Elle descend dans la cour. Elle se mêle à ceux qui sont là. Une voix blanche qui la surprend elle-même. Elle interroge pour se donner une contenance. On lui fait de nouveau le récit qu'elle n'avait pas besoin d'entendre. Et les gens qui lui parlent ajoutent en hochant la tête « Oh, c'est la pochade pour sûr qui a fait le coup !» Timidement, elle veut prendre la défense de la malheureuse. Mais on ne l'a pas vue, pourquoi l'accuse-t-on? Bon, le juge sera bien trouvé. C'est pas notre affaire. Et le bruit va ainsi grossissant et ne s'arrête plus. Il fera émouvoir la justice jusque dans sa retraite et amassera la tempête sur la tête de la pauvre Charlotte. Clotilde n'ose pas la défendre davantage. Cela pourrait surprendre tout le monde, donner à réfléchir, inspirer des soupçons et peut-être attirer de son côté l'attention et la curiosité des magistrats. Elle la connaît, Charlotte. Elle sait combien cette nature est délicate et distinguée. Elle a été la dernière à ajouter foi aux calomnies infâmes. Il a fallu croire, pourtant. Les scandales se renouvelaient. L'enfant mystérieux naquit. Et maintenant, voilà qu'on l'accusait d'un meurtre. Seulement le meurtre, Clotilde savait bien que la pocharde ne l'avait pas commis. Alors elle se demandait si, par hasard, les accusations qui pesaient depuis longtemps sur l'infortuné ne seraient pas aussi peu vraies que la dernière. Elle s'éloigna de tous ces gens. Ils lui faisaient horreur dans leur certitude de la culpabilité de Charlotte. Tout à coup, elle aperçoit Matisse à la grille au moment où elle se disposait à rentrer à Fenestrel. Elle redescend le perron et vient à lui d'un pas chancelant. Ah, quelle bonne idée il a eue et comme il a bien fait de ne pas la laisser seule. Il s'avance et lui tend la main. Ses traits portent la trace des terreurs de la nuit. Sa main est glacée comme celle de sa maîtresse. Et ils échangent à voix basse des mots brusques, fiévreux. « Vous l'avez revue ?»« Oui. »« Eh bien, bon, calme, ainsi qu'à l'ordinaire. Hier soir, après la fête, il est rentré chez moi. Vraiment, on n'aurait jamais dit jamais. Il a dû prendre toutes ses précautions pour que les soupçons ne l'atteignent pas. Oui, oh oui. » Quelle vie, mon Dieu, désormais auprès de lui toujours. Du courage, je savais tout ce que vous deviez souffrir. Voilà pourquoi je suis venu. Vous serez plus forte pendant que je serai là. Dans les premières heures, vous auriez pu faiblir. Voilà pourquoi je suis accouru tout de suite. Oui, merci, vous avez bien fait. Vous êtes bon. Mais je vous aime. M'aimez-vous? Oh, taisez-vous, taisez-vous. Notre amour est maudit. Clotilde. Maudit, vous dis-je, maudit. Ne m'en parlez plus. Vous voyez bien que je suis folle. Et s'il apprenait jamais, mais il me tuerait comme il a tué l'autre. Tenez, cette nuit, sans dormir, j'ai eu des cauchemars et il me semblait que tout à coup, je venais de lui avouer la vérité. Alors il me mettait les doigts autour du cou et il serrait lentement, lentement. Et en faisant cela, c'était horrible. Il souriait, très calme, oui, il souriait. Oh, la folie, vous dis-je, la folie. Il ne connaîtra rien, jamais. Et qu'en savez-vous? Elle se tut, haletante. Puis après ce silence, ayant cru remarquer que les gens restés dans le jardin les regardaient tous les deux avec une persistance singulière, « Rentrons, on dirait qu'ils nous épient. » Quand ils furent seuls, que vais-je faire, moi, toute seule auprès de lui? Il faut le voir le moins possible. Faire votre vie pour vous seule. Oh, vous vous en prenez à votre aise. Parole que tout cela, est-ce que je peux? Le temps qui passera ne fera qu'augmenter l'horreur que j'ai de lui. Car si je ne l'aime pas, moi, lui, il m'aime. Clotilde. Mais il m'aime avec passion, comme au premier jour, davantage, il m'aime. Je l'ai bien vu encore hier dans ses yeux pleins de tendresse, pleins de désir. Il m'aime et c'est épouvantable. Il baissa la tête. Elle continua dans une douleur véhémente. Ce n'est pas tout. Vous n'avez pas entendu? Dans le pays, déjà, partout, on accuse. Lui? Non! Est-ce qu'on peut même avoir l'idée de le soupçonner? Alors, eh bien, la malheureuse qui habite Maisonbrouillère, Charlotte Lamarche, la poche? Il n'acheva pas le mot infâme. La calomnie qui, jadis enserrée, rendue vivante pour ainsi dire dans ce seul mot d'argot, avait pris naissance dans la rancune de son cœur pour le beau lys de la vallée, et était sortie la première de ses lèvres. Non, il n'osa, et un trouble profond se peignit sur son visage. Il bégaya, mais cette accusation ne tient pas debout. Elle tombera vite. Pendant que la justice s'occupera d'elle, vous aurez le temps de recouvrer votre tranquillité. Elle ne l'entendait plus, tout à ses pensées, évoquant l'image de son mari essayant de le suivre là-bas, vers le coteau de Maisonbrouillère. Que fait-il? Mais que dit-il? Quel mensonge va-t-il inventer? Elle alla vers la fenêtre et regarda au loin. La nature resplendissait sous le soleil. Le ciel n'avait pas un nuage. Ah, tout! Tout plutôt que cette incertitude atroce. Et ses yeux revinrent supplier Matisse. Il comprit. Oui, dit-il, je vais aller à Maisonbrouillère. Je m'informerai, je saurai ce qui se passe. J'interrogerai et j'écouterai. C'est cela, dit-elle égarée, et revenez vite. Tâchez d'être de retour avant lui, n'est-ce pas? Je vous le promets. Elle remonta s'enfermer chez elle d'un pas chancelant. Matisse sortit.